France Culture.
Le journal Julie Paco.
Bonjour à tous. Contenir la colère, le gouvernement sous la menace de blocage de la capitale brandie par les syndicats agricoles propose un rendez-vous à Matignon. Un rendez-vous qui arrive un peu tard, d'après la coordination rurale qui hausse le ton juste avant les élections professionnelles. Le gouvernement qui s'est donné quelques jours de plus pour peaufiner son projet de loi d'urgence pour Mayotte. Il ne sera présenté que la semaine prochaine en Conseil des ministres. 3 semaines après le passage du cyclone Chido, nous ferons un point sur la situation humanitaire dans l'archipel avec Florent Vallet, directeur de l'urgence et des opérations à la Croix-Rouge. Une colère qui ne désemplit pas en Corée du Sud. Partisans et opposants au président déchu continuent de s'affronter dans les rues de Séoul. Quand à Tokyo, c'est une décision américaine qui suscite l'incompréhension. Celle prise par Joe Biden qui s'oppose au rachat d'US Steel par le géant japonais de l'acier. Enfin, l'intelligence artificielle est-elle plus forte que nos papilles? Oui, si on en croit une étude réalisée par les chercheurs allemands qui ont passé plusieurs whisky au crible de l'IA. Un rendez-vous à Matignon. Face à la colère des agriculteurs, le Premier ministre rencontrera les principaux syndicats agricoles le 13 janvier prochain. Une annonce faite hier soir, alors que la coordination rurale se prépare à rejoindre Paris en tracteur. Le syndicat maintient d'ailleurs son appel à manifester dans la capitale et partout en France à partir de demain, estimant que le gouvernement cherche à gagner du temps et n'a pas la volonté d'avancer. Mais Catherine Pétillon, à quelques jours des élections professionnelles, le syndicat agricole reste surtout en quête de visibilité.
La coordination rurale juge la date de rendez-vous trop lointaine et y voit un signe que le gouvernement ne veut pas avancer, sans toutefois que ne soit bien clair ce que le syndicat attend précisément d'une rencontre urgente. Il présente son projet de blocage de la capitale surtout comme un signe clair de la motivation des agriculteurs à s'exprimer dès les premiers jours de janvier. Les porte-paroles évoquent aussi pêle-mêle leur opposition au contrôle des exploitations et la réduction des pesticides autorisés. Si, comme les autres organisations, la coordination rurale veut maintenir la pression pour que se concrétise les évolutions législatives attendues depuis les mobilisations de l'hiver dernier, c'est avant tout occuper le terrain que cherche le syndicat, à quelques jours de la campagne électorale pour les élections professionnelles qui, officiellement, commencent mardi prochain. La semaine dernière, a paru un livre intitulé « Entendez-vous dans nos campagnes ?» étrange objet sous forme de correspondance entre la présidente du syndicat, Véronique Le Floch, et le polémiste souverainiste Michel Onfray. On y trouve pêle-mêle des récits de mobilisation pour l'une, des souvenirs d'enfance d'un monde paysan perdu pour l'autre. Des dénonciations diverses comme celle de l'idéologie de la dictature écologique. Un rapprochement grâce auquel le syndicat espère élargir son audience au-delà du cercle des agriculteurs. La semaine prochaine, sa présidente reprendra elle son tour des départements car la coordination rurale espère arracher des voix à la FNSEA et gagner quelques chambres d'agriculture.
Catherine Pétillon, la coordination rurale mais également la Confédération paysanne qui juge aussi que ce rendez-vous du 13 janvier à Matignon arrive bien tardivement. 3 semaines après le passage du cyclone Chido, Marine Le Pen est attendue demain à Mayotte. La chef de file des députés RN qui votera le projet de loi d'urgence pour Mayotte présenté la semaine prochaine par le gouvernement en Conseil des ministres. Si elle va dans le bon sens, met en garde ce matin le porte-parole du parti, Laurent Jacobelli. Ce projet de loi doit intégrer certaines mesures du plan Mayotte debout dévoilé lundi par le Premier ministre en déplacement dans l'archipel. Bonjour Florent Vallet.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'urgence et des opérations à la Croix-Rouge. Alors hier soir, le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, a annoncé un plan d'évacuation des centres d'hébergement d'urgence qui sera enclenché dès le début de la semaine prochaine de façon à récupérer ces centres pour la rentrée scolaire. Parmi les pistes de relogement évoquées, il y a l'installation notamment de camps avec des tentes. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ?
Alors non, ce n'est certainement pas la bonne solution, puisque un camp de tente, c'est aussi l'équivalent de bidonville. C'est des solutions extrêmement précaires. Maintenant, c'est peut-être une solution transitoire qui est indispensable pour pouvoir fonctionner. Après, faut-il trouver un terrain plat, trouver un certain nombre de et créer un certain nombre de dispositifs permettant d'accéder à l'hygiène, à des toilettes, à de l'eau au quotidien pour accompagner ces camps.
Alors, au-delà de cette situation, cette solution temporaire, le Premier ministre François Bayrou promet une reconstruction de l'archipel en 2 ans. Et il prévoit notamment l'interdiction de la reconstruction de bidonville, ce qui pourrait d'ailleurs être inscrit dans le projet de loi d'urgence pour Mayotte, qui doit être examiné avant la fin du mois au Parlement. Est-ce que ça vous semble réaliste ?
Alors, 2 ans, ça va être certainement un petit peu court. Parlons de 4 ans, 5 ans, déjà minima pour pouvoir reconstruire, permettre à la population mayoraise de retrouver ses marques et de grandir. Le problème aujourd'hui, s'il y a des bidonvilles, c'est qu'il n'y a pas non plus d'habitat, donc il faut construire de l'habitat. Construire de l'habitat, ça prend du temps et ça prend beaucoup plus que 2 ans, ça c'est très clair.
Le ministre de l'Intérieur affirme également, pour l'heure, que 100% de la population mahoraise est raccordée à l'eau courante. D'après vos informations, est-ce que c'est bien le cas ?
Alors, on a quelques retours en nous disant que c'est pas forcément le cas, bien évidemment. Après, c'est aussi les problèmes qu'il faut rétablir les réseaux. Rétablir le réseau, c'est aussi rétablir toute la tuyauterie, en fait, jusqu'au robinet, jusqu'au bout du robinet. Maintenant, la problématique est que, avant le cyclone, toute la population mahoraise n'a pas accès à l'eau et il n'y a pas suffisamment d'eau produite au quotidien. C'est pour ça qu'il y a eu un eau il y a quelques mois, qui convient de poursuivre. C'est indispensable, hein. L'eau, c'est la vie. On a besoin de la population a besoin de cette ressource pour pouvoir s'alimenter, pouvoir boire, mais aussi pour l'hygiène, tout bonnement. Et l'hygiène est indispensable et primordiale là aujourd'hui dans cette phase de post-cyclone, si on veut éviter aussi d'avoir des épidémies de maladies quelles qu'elles soient.
Alors justement, hein, 3 semaines après ce cyclone, la dégradation des infrastructures de base augmente le risque d'épidémie. Ça, c'est la mise en garde de Santé publique France. L'accès aux soins, à l'eau potable, aux produits d'hygiène se retrouve entravé. Alors, quelles sont aujourd'hui les menaces concrètement qui pèsent sur la population mahoraise ?
Alors les menaces, elles pèsent depuis le début. Hein. C'est le fait de ne pas avoir d'eau potable, c'est une problématique d'hygiène. À partir du moment où vous avez un défaut d'hygiène, vous avez des problématiques de maladies courantes, de diarrhée. Mais il faut pas oublier que jusqu'au mois d'octobre, il y avait du choléra à Mayotte. Hein. Donc ça pourrait être aussi de la diarrhée, du choléra, toutes les maladies hydriques. C'est sur cette problématique d'hygiène, mais c'est aussi la problématique du quotidien, de la prise en charge des pathologies quotidiennes, de ce que les gens ont. On est dans l'hiver austral, donc c'est l'hiver là-bas aussi, comme chez nous, donc ils ont aussi la grippe, ils ont aussi tout un tas de maladies qui apparaissent, qu'il faut prendre en compte au plus vite. L'accès aux soins, c'est déjà une difficulté au quotidien, sur lequel nous, on travaille, on a des équipes mobiles qui participent, avant le cyclone, qui participaient à cet accès aux soins. Il faut renforcer cet accès aux soins, il faut aller vers les populations, mettre en place des structures complémentaires, réactiver les dispensaires, réactiver l'hôpital, mais aussi aller vers les gens pour leur donner cet accès aux soins, donner de l'information. Et puis le soin, c'est aussi de la prévention. Il faut travailler sur la prévention, c'est indispensable maintenant. Il faut expliquer pourquoi il ne faut pas boire l'eau de la rivière, en tout cas, il faut la faire chauffer, il faut la traiter. Et ça, c'est un travail de chaque instant, et c'est la prévention qu'il faut mettre en place maintenant pour gagner cette bataille, en tout cas la bataille santé, dans les mois à venir.
Parce qu'à l'heure actuelle, Florent Vallée, vos équipes n'arrivent pas à atteindre l'ensemble de la population à Mayotte.
C'est compliqué d'atteindre toute la population. Mayotte, c'est grand, hein, en fait, hein, donc c'est compliqué de pouvoir atteindre tout le monde, d'aller vers tout le monde. Donc on essaye d'y aller au maximum. C'est jamais suffisant. Vous savez, quand vous êtes malade ou si vous faites un malaise, vous attendez les secours 10 minutes, c'est long. Alors imaginez à Mayotte, l'accès aux secours, l'accès à la santé sont beaucoup plus longs. Donc forcément, c'est extrêmement long pour pouvoir atterrir. La semaine prochaine, on devrait avoir 7 équipes mobiles de médecins et d'infirmiers qui vont aller à la rencontre de la population. Donc on passe de une équipe auparavant, 3 équipes maintenant, 3 équipes maintenant et 7 équipes la semaine prochaine pour pouvoir aider la population, donner un accès aux soins les plus primaires.
Merci beaucoup Florent Vallée. Je rappelle que vous êtes directeur de l'urgence et des opérations à la Croix-Rouge en direct sur France Culture ce midi. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation. La situation politique semble chaque jour un peu plus chaotique en Corée du Sud. Des milliers de Sud-Coréens manifestent une nouvelle fois dans les rues de Séoul aujourd'hui. Détracteurs et partisans du président déchu s'affrontent à distance devant la résidence présidentielle au lendemain d'une tentative infructueuse d'arrêter Yoon Suk-yeol, accusé de rébellion pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre. Un président déchu qui refuse toujours de se présenter devant les enquêteurs. Le reportage de notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz.
Les deux camps se font face, hein, mais à plusieurs dizaines de mètres l'un de l'autre. Des deux côtés du portail du domaine présidentiel, celui-ci donne sur une route, mais avec les rassemblements, aucune voiture ne circule sur les voies. Entre les deux manifestations, une quinzaine de bus policiers et des barrages. Côté sud, les militants pro-démocratie, donc, ils sont assis par terre, à même le béton, et se distribuent gratuitement boissons chaudes et gâteaux. Et puis, au milieu de ces citoyens, on peut apercevoir de nombreux représentants de la société civile. De l'autre côté, un peu plus au nord, les soutiens du président Yoon Suk-yeol agitent des drapeaux sud-coréens et américains. Les références à Donald Trump sont partout sur les pancartes, les slogans, les dessins, car la plupart des électeurs de Yoon mobilisés ici sont de fervents admirateurs du milliardaire. Cette base électorale chrétienne ultra-conservatrice est présente devant la résidence presque 24 heures sur 24, et ce depuis le mandat d'arrêt contre le chef d'État délivré par un tribunal de Séoul le 31 décembre dernier.
Camille Ruiz, et ce n'est pas Donald Trump mais bien Anthony Blinken qui est attendu lundi dans la capitale sud-coréenne dans ce contexte de crise politique inédite. L'armée russe affirme avoir intercepté 8 missiles américains à Takhmez tirés par l'Ukraine sur son territoire, un type d'attaque considéré par le Kremlin comme une ligne rouge dans le conflit. L'administration du président Joe Biden avait autorisé en novembre dernier le recours à de tels missiles par Kiev, qui a mené depuis une série d'attaques avec ses missiles longue portée. Joe Biden qui a annoncé hier le blocage du rachat d'US Steel par Nippon Steel, s'opposant donc à une fusion entre les deux géants de l'acier américain et japonais. Le président américain sortant veut en effet empêcher que l'un des plus grands producteurs américains d'acier soit placé sous contrôle étranger, car cela poserait des risques pour notre sécurité nationale et nos chaînes d'approvisionnement essentielles, justifie-t-il. Une décision qui engendre des répercussions géopolitiques entre les États-Unis et le Japon. Le ministre nippon de l'économie jugeant cette décision incompréhensible et regrettable, Karine Nishimura.
C'est un choc qui fait la une au Japon. En discussion depuis un an, le rachat de l'américain US Steel par le japonais Nippon Steel devait être bénéfique aux deux entreprises et aux relations entre les deux pays alliés. Eh bien, c'est tout l'inverse et c'est sans précédent. Joe Biden stoppe brutalement ce plan malgré les récentes suppliques du premier ministre japonais. Dans un communiqué conjoint, US Steel et Nippon Steel déplorent une décision purement politique pour plaire aux syndicats américains. Ils envisagent un recours en justice. Le ministre japonais de l'industrie, Yoji Muto, juge la décision incompréhensible et déplorable. Des explications supplémentaires vont être demandées au gouvernement américain. Cette décision est humiliante pour les Japonais qui se sentent traités comme une menace et non un partenaire indispensable en Asie. À moins de 3 semaines de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les diplomates et industriels japonais ont de quoi s'interroger sur la tournure des relations économiques entre les deux pays pourtant censés être les meilleurs alliés.
Karine Nishimura, l'intelligence artificielle, l'IA, est-elle plus douée que l'homme pour détecter l'origine et les arômes d'un whisky? C'est les résultats étonnants d'une étude réalisée par des chercheurs allemands et dont les résultats viennent d'être dévoilés. Elle démontre que l'IA est capable d'identifier un scotch ou un bourbon avec plus de précision que les meilleurs experts. À Berlin, les précisions de Sébastien Baer.
Les chercheurs ont confronté l'intelligence artificielle à 11 experts parmi les plus réputés. Et le résultat est sans appel. Les algorithmes, développés par le très sérieux Institut Fraunhofer de Dresde, ont surclassé les testeurs humains. L'IA a ainsi détecté, avec un taux de réussite de 94%, si un whisky était américain ou écossais. Elle a aussi identifié les 5 notes qui dominaient dans chacun des échantillons test avec plus de précision que n'importe quel expert du panel. L'intelligence artificielle a ainsi remarqué que des notes caramélisées sont par exemple typiques des whiskies américains. À l'inverse, elle détecte dans les whiskies écossais des notes fruitées, de pommes et des notes de phénol qui donnent à l'alcool un goût de tourbe un peu fumé. Pour entraîner les algorithmes, les auteurs de l'étude leur ont soumis plusieurs échantillons afin de leur apprendre à reconnaître 390 molécules, celles que l'on retrouve le plus souvent dans les scotch et les bourbons. Ils ont aussi fourni à l'IA une sorte de grille de lecture pour l'aider à associer ses observations à des mots-clés comme floral, boisé, fruité ou parfumé. D'après les chimistes, l'intelligence artificielle présente plusieurs avantages. Elle peut être utilisée pour détecter les whiskies contrefaits et pour assurer le contrôle qualité. Les algorithmes peuvent aussi servir lors de l'assemblage de nouveaux whiskies à évaluer si le produit a l'arôme espéré.
Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le monde de l'œnologie? Écoutez Gabriel Le Pouzet, il est neurobiologiste et chercheur en perception sensorielle.
L'IA arrive très bien à reconnaître des signatures communes entre des profils chimiques d'un même château. Elle arrive à différencier la rive gauche de la rive droite de Bordeaux, par exemple. Donc ça montre que si les données sont riches, on peut facilement identifier un château avec une puissance de prédiction de l'ordre de 99% sans problème. Mais la question derrière, qui nous intéresse plus dans les sciences de la perception et de l'œnologie, c'est de savoir est-ce que cette prédiction-là, elle nous aide à comprendre qu'est-ce que va ressentir le consommateur, qu'est-ce que va ressentir le dégustateur. Et ça, malheureusement, l'IA n'est pas du tout capable de prédire ça. Dit autrement, il n'y a pas encore de sommelier virtuel, il n'y a pas encore d'œnologue virtuel capable de prédire le goût d'un vin à partir d'une analyse chimique. On peut prédire son identité, mais on peut pas prédire son goût ni ce que va percevoir, par exemple, un client ou un dégustateur.
Propos recueillis par Grégoire Motte. La météo avec 30 départements désormais placés en vigilance orange pour neige et verglas en raison d'une perturbation qui va toucher le nord et l'est du pays en fin d'après-midi. Les températures vont donc rester froides au nord entre 0 et 4 degrés, mais elles se radoucissent au sud où on prévoit 8 à 14 degrés en moyenne.
Vous écoutez France Culture.
Radio France fête ses 50 ans, 50 ans de présence à vos côtés.
Est-ce que vous me recevez ?
À Beauziac, c'est dans le Lot-et-Garonne, enfin à côté de Beauziac même, ça va pas être bien grand.
La nuit sera assez douce, demain il fera meilleur qu'aujourd'hui, jusqu'à 22 degrés à Paris, et miracle, il ne pleuvra pas.
Une nouvelle demande pour l'émission du 14 août sur le sage africain Amadou Empaté Ba.
Ça fait 2 ans que la municipalité, le conseil municipal, essaye de voir avec la DAS, et à ce jour, on a l'impression de parler à un mur.
Allô ?
Oui, oui.
Oui, c'est une situation vraiment exceptionnelle. La tempête, déjà ce matin sur les côtes bretonnes, vendéennes ou normandes, s'est décalée vers l'intérieur des terres.
Super public.
Pardon, madame Christiane.
De Fréjus.
On dit Fréjus.
Oui, vous dites un jus de pamplemousse.
D'une mère à perte de vue de l'Arc de Triomphe à la Concorde, au milieu de la foule engloutie, un bus à impérial qui émerge dans le soleil. C'est là que sont installés nos 22 champions du monde, la tête dans les nuages et le cœur forcément retourné par cette billette.
160 km à l'heure.
Et nous sommes sans courant et sans eau depuis lundi soir.
Ça, c'est quelqu'un qui se trompe. Ça, c'est quelqu'un qui va dire « Allez, boucherie, chevaline !» Ou...
Ça fait 50 ans que nous partageons tout cela et il nous reste tant à vivre ensemble.
Midi 46, presque 47, et vous retrouvez Sens Politique avec Astrid de Villene. Bonjour et bonne année Astrid.
Bonjour, bonne année Julie, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de Sens Politique, permettez-moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2025. Vous écoutez Sens Politique, l'émission qui prend le temps, chaque samedi, de connaître une personnalité pour décrypter avec elle son parcours, son engagement, au rythme de l'actualité. Notre invitée est une frondeuse, même si elle n'apprécie pas l'étiquette. Elle préfère parler de conviction et d'ancrage. Les origines italiennes qui lui font défendre les exilés et les Lorraines qui lui rappellent d'où elle vient. Fille et petite fille de mineurs de fond, elle fait une scolarité exemplaire en Moselle au point d'être admise en prépa littéraire à Henri IV, où elle n'ira pas. Ses parents n'ont pas les moyens de la loger à Paris. Ce sera le lycée Georges de la Tour à Metz, admise à Normale Sup, direction enfin la capitale, agrégée de lettres classiques, romancières, les lettres d'abord, la politique ensuite. D'abord chez les Verts, le parti qui lui ressemble le plus, du moins le pense-t-elle avant d'y entrer. Après trop de désaccords, elle rejoint le Parti Socialiste et la campagne présidentielle de Ségolène Royal, mission plume de candidate. La même année, en 2007, elle entre à l'Assemblée comme députée de Moselle, un mandat qu'elle ne quittera que 10 ans plus tard, battue aux législatives de 2017, comme beaucoup de socialistes et la plupart des députés frondeurs. Elle pense que toute littérature est un engagement, même la poésie la plus hermétique. Elle aime la Boétie et ne supporte pas le cynisme, elle nous dira si c'est compatible avec l'engagement politique. Après avoir été ministre de la Culture pendant 2 ans sous François Hollande, elle est aujourd'hui directrice des affaires culturelles à la mairie de Paris. Bonjour Aurélie Filippetti.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, bonne année.
Bonne année.
Merci à vous de nous écouter comme chaque samedi. Bienvenue en 2025, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Vous vivez-vous comme une transfuge de classe, Aurélie Filippetti ?
Je n'aime pas beaucoup cette expression parce que finalement, on est transfuge. Enfin, transfuge, ça voudrait dire qu'on s'est enfui. C'est pas vraiment une fuite. C'est plutôt un parcours, un chemin. Et ce chemin, c'est celui qui permet effectivement de passer d'un milieu à un autre avec une part de à la fois d'inconfort, mais aussi finalement une certaine distance avec le milieu où l'on arrive. Et ça, c'est assez salutaire, je crois.
Peut-on faire de la politique sans cynisme ?
Alors, je crois que c'est difficile, mais c'est la seule voie, et en particulier aujourd'hui. Je pense que la seule voie, c'est que les gens fassent de la politique par conviction et non pas pour faire carrière. C'est vrai que aussi la politique est très violente. Quand on exerce des mandats importants, on est soumis à rude épreuve. C'est beaucoup de sacrifices, et donc souvent les gens se forgent une sorte de carapace qui peut vite devenir du cynisme. Et je crois que là, c'est le moment où il faut avoir une ligne rouge et savoir finalement s'arrêter avant de sombrer dans le cynisme.
Alors, en retraçant votre parcours avec Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission, on a découvert qu'en 2011, vous soutenez directement François Hollande, la primaire du Parti Socialiste, alors que vous aviez soutenu, je le disais en introduction, Ségolène Royal en 2007, et qu'on pourrait se dire que vos idées sont plus proches de celles de Martine Aubry. Si ce n'était pas du cynisme, est-ce que c'était de la stratégie ?
C'était pas de la stratégie. Moi, j'avais été j'étais membre du bureau national du Parti Socialiste, etc. Et donc, je connaissais bien aussi bien Martine Aubry que François Hollande. Et je pensais que François Hollande était celui qui était le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy. Et donc, c'était vraiment la priorité. Et c'est vrai que je l'ai soutenu dès la primaire. J'ai même été sa porte-parole pendant la campagne des primaires du Parti Socialiste en 2011. Mais il avait aussi un programme qui était un programme qui me satisfaisait tout à fait à ce moment-là et que je trouvais très bien, notamment par exemple sur les questions de politique industrielle, sur la question des hauts fourneaux de Florange, donc en Moselle, là où j'étais élue. Il était très engagé sur ces questions-là et également sur l'éducation. Enfin voilà, donc il y avait aucune forme de cynisme, mais c'était vraiment parce que on était dans une époque face à Nicolas Sarkozy, face à une